cet instant, on n'est pas tellement autour de la machine à café, mais j'espère réussir à être clair avec quelques propos. Pour donner une réponse, ça fait depuis quelques années que je vois des gens de la tuile dans la bibliothèque. Ce qui m'avait étonné déjà il y a 4 ou 5 ans. Et le personnage dont tu parlais, en fait, est en train de faire une grande étude sur les musiques pour machines à musique. Il fait un immense répertoire de cette question-là à longueur de journée ici. Pour en venir à ma conférence, si j'ai choisi ce titre des chasse-gueux aux trousses des mauvais pauvres, c'est que j'ai été persuadé au cours du travail sur le livre commandé par la tuile, Fribourg et ses vagabonds, que beaucoup de ceux qui finissent dans la rue, sans attache, sans toit, sans ressources non plus, y ont été poussés. Je ne croyais pas tellement en commençant cet ouvrage qu'on choisissait volontairement de vivre dans la rue. J'y crois encore un peu moins aujourd'hui. À travers l'histoire, non seulement celle de Fribourg d'ailleurs, puisque le traitement fribourgeois ne diffère pas beaucoup du traitement international des sans-abri et des vagabonds, à travers l'histoire justement, nombreux sont ceux qui ont dû vivre sans toit, hors des structures sociales, parce qu'ils ont été considérés comme des mauvais pauvres, d'où le deuxième terme de mon titre. Et je pense qu'aujourd'hui encore, j'y reviendrai dans ma conclusion, de nombreux personnages qui fréquentent la tuile, s'ils avaient pu le choisir, se passerait bien des services de la tuile et que souvent, ils y sont aussi poussés. Pour les bandes temporelles de cette conférence, je vais surtout insister sur les 17e et 18e siècles qui sont très documentés et qui me paraissent illustrer assez bien les différents problèmes posés au cours de l'histoire à ces vagabonds. On m'a demandé en lisant le titre de la conférence si les chasse-gueux étaient un terme de mon invention, donc évidemment non. On peut voir l'apparition de cette notion, en tout cas à partir de 1572, je n'ai pas trouvé de traces avant, mais je dois dire que dans tout cet ouvrage, je n'ai jamais été très systématique, puisque la période était immensément longue, je pars à peu près autour de 1250, pour m'arrêter en 2002. Donc, en 1572, en tout cas, apparaît pour la première fois ce terme de chasse-gueux. Son rôle est de, comme son nom l'indique, chasser le gueux. On reviendra un peu plus tard, justement, sur ce qu'on peut mettre derrière cette notion de gueux. Il y en a deux en 1572 à Fribourg, et on en compte déjà quatre en 1580. Jeanne Nicky, qui en parle beaucoup, qui a été une spécialiste des institutions charitables fribourgeoises, définit leur fonction en cette fin de XVIe siècle. Ils doivent signaler les mendiants de mauvaise vie ou atteints de maladies contagieuses et escorter jusqu'à la frontière ceux qui étaient étrangers. Dès lors, donc dès la fin du XVIe siècle, les chasse-gueux font partie intégrante de l'histoire fribourgeoise. On va les voir réapparaître à de nombreuses reprises jusqu'en 1748. En 1748, la structure va changer, il y aura une maréchaussée, mais qui reprendra effectivement les fonctions de ces chasse-gueux. Ils auront donc plusieurs fonctions, mais qui varieront au fond en fonction des systèmes d'aide et des systèmes répressifs, puisque, comme on le verra plus tard, l'un ne va pas tellement sans l'autre. Il n'y a pas de système d'aide pur à Fribourg avant 1950, disons. Jusque-là, les choses sont assez difficiles pour les vagabonds. En 1649, pour illustrer quelques-unes de leurs fonctions, on voit en 1649, dans une ordonnance fribourgeoise, que ces chasse-gueux doivent participer aux distributions d'aumônes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on décide que les particuliers ne peuvent plus donner l'aumône directement aux pauvres, mais doivent passer par la grande aumônerie qui, elle, va se charger de distribuer aux pauvres qui le méritent seulement la charité. C'est-à-dire que dès ce moment-là, une partie des pauvres ne méritera déjà plus de toucher l'aumône. L'une des raisons de cette décision de 1649, et qui est un leitmotiv dans l'histoire des pauvres, au fond, c'est que l'aumône trop généreuse favorise la fainéantise. Et dès ce moment-là, donc même un peu avant, on y reviendra, on peut revoir ce terme de fainéantise revenir sans cesse dans tous les textes de loi qui concerneront l'aide aux pauvres. En 1649 aussi, on peut voir une autre fonction du chasse-gueux, c'est que, non content de trier entre les pauvres méritants et ceux qui ne le sont pas vont voir une nouvelle institution qui pourra s'occuper d'eux, c'est le Schellenwerk. Avant d'être une institution vraiment formalisée dans un bâtiment, ce Challenwerk va simplement se charger de faire travailler les fainéants. Donc une forme de travail obligatoire et, si possible, un travail infamant. Donc on pense qu'au début, ils allaient surtout ramasser les ordures dans les villes, dans la ville, pardon. Et le chasse-gueux intervenait dans cette structure-là en les surveillant quand ils étaient emprisonnés, au fond. Emprisonnés, on pense qu'ils étaient dans deux petits baraquements près de l'hôpital Notre-Dame, mais c'est assez mal défini au départ. Par contre, le Challenwerk, plus tard, nous y reviendrons, deviendra une institution tout à fait claire qui s'installera en basse ville et qui s'occupera des mauvais pauvres et plus tard deviendra une maison de correction, en fait. Et là, ce sera tout à fait institutionnalisé. Je viens de parler donc du mauvais pauvre, qui est le deuxième terme au fond de mon titre. Alors, qu'est-ce qu'un mauvais pauvre ? La notion au Moyen-Âge est assez difficile à déterminer. Donc, le Moyen-Âge, j'en ai beaucoup parlé dans le livre, je n'en parlerai pas beaucoup maintenant, c'est-à-dire que je ne parle pas beaucoup de la période qui précède 1500 dans cette conférence. Mais le statut du pauvre est assez difficile à déterminer, c'est-à-dire qu'en même temps, il est tout à fait valorisé dans son rôle d'intercesseur pour l'obtention du salut. Donc, il faut faire du bien aux pauvres pour l'obtention du salut. Il paraît moins évident, d'après par exemple Michel Mola, qui a beaucoup écrit là-dessus, que le pauvre est respecté. C'est-à-dire qu'on peut imaginer assez facilement que le mauvais pauvre existe déjà. Toujours est-il qu'à partir du début du XVIe siècle, il est tout à fait thématisé, ce mauvais pauvre. Et ce qui le caractérise, ce qui permet la distinction en fait, entre le bon et le mauvais pauvre, c'est l'aptitude au travail. C'est-à-dire que l'orphelin, l'infirme, le vieillard est un vrai pauvre, puisqu'il ne peut plus effectivement travailler. Au contraire, celui qui peut travailler, mais qui ne travaille pas, est considéré comme un faux pauvre. Les vagabonds et mendiants dont il est question dans mon livre, donc vagabonds et mendiants sont souvent utilisés au cours de l'histoire comme des quasi-synonymes. En fait, les vagabonds et les mendiants apparaissent dans les mêmes ordonnances répressives et ils sont mis côte à côte. Donc vagabonds et mendiants vont, dès lors, rester et pour longtemps dans la catégorie des mauvais pauvres. Dans un texte sur la politique pratiquée en Suisse à l'égard des pauvres, Annelise Edkönig explique la mise en place des critères de tri des pauvres. Je cite, « La présence d'une proportion élevée de pauvres dans des sociétés vivant souvent très frugalement a nécessité, en raison de l'inadéquation des ressources face à l'extension de la pauvreté et des besoins effectifs des pauvres, le recours à des normes de sélection. » Tant que la pression sur les ressources et les emplois n'est pas trop forte, l'aide n'est pas le résultat d'un système. Elle se fait de cas en cas au gré des besoins des requérants. Du XVIe au XIXe siècle, il y aura une évolution, justement, de cette notion du mauvais pauvre. On ne se contentera pas de stigmatiser ceux qui ne veulent pas travailler, mais on voudra en plus, pour qualifier un pauvre de pauvre méritant, qu'il manifeste son amour du travail. Annelise Koenig remarque encore qu'au XVIIIe, surtout, cet élément nouveau s'ajoute à la nécessité de travailler. Je la cite encore une fois, « Il ne suffit plus seulement de travailler pour faire partie de la catégorie des pauvres méritants, encore faut-il aimer le travail et vivre avec ordre et décence dans le labeur. » En résumé, il n'est pas très grave d'être pauvre, il faut travailler en étant très joyeux d'être pauvre. Je crois que vous l'interprétez ainsi. On interdit donc l'accès à l'aumône non seulement aux fainéants, mais encore aux déréglés, aux débauchés et aux paresseux. Je vous parlais tout à l'heure du Challenwerk. On a une preuve justement de cette extension de la définition du pauvre non méritant dans un règlement du Challenwerk de 1757. Je le cite dans la traduction d'Yvan Duc qui a consacré un grand travail à ce Challenwerk sous le titre « Les maisons de détention fribourgeoises » durant la première moitié du XIXe siècle. Je cite donc, « Il est connu de chacun et prouvé par l'expérience journalière qu'un très grand nombre d'habitants de la ville et de la campagne vivent dans la fainéantise et la mendicité, quoiqu'en raison de leur force et de leur santé, ils pourraient très bien se sustenter eux et leur famille. De cet état de choses découle toute espèce de mauvais fruits, tels que brigandage, vol, meurtre, incendie, immoralité et autres vices, qui sont d'énormes péchés et causent de grands scandales, finissant par attirer le courroux et la vengeance de Dieu. Pour remédier à cette vie oisive et pernicieuse, il n'y a pas de meilleur moyen à prendre que d'établir une maison de réclusion ou de correction, ou à Challenwerk, dans lequel les jeunes gens pourraient être astreints à la discipline, les déréglés à la crainte et au respect, les débauchés à la pudeur et les paresseux au travail. D'après les mots d'Annelise Edkönig, encore une fois, ce sont donc bien les raisons économiques qui conduisent à cette mise en place d'un tri des pauvres. Pourtant, par la suite, donc, je pense que l'historienne qui analyse ça aujourd'hui est capable de se rendre compte que ce sont les causes économiques. Les contemporains, par contre, à aucun moment ne verront ces causes économiques. Et on stigmatisera toujours des déficiences morales pour expliquer la pauvreté. Et ça, c'est un phénomène constant. Donc, j'y reviendrai dans ma conclusion sur la tuile. Je pense que c'est un phénomène constant qui n'a pas tout à fait disparu aujourd'hui et que dans bien des cas, certains des hôtes de la tuile y finissent aussi parce qu'il y a eu jugement moral sur leur attitude et non pas réflexion économique sur une véritable pauvreté. Je vais passer maintenant, j'ai parlé déjà d'aumône, de restriction de l'aumône par les chasse-gueux, je vais m'arrêter un moment, un assez long moment d'ailleurs, sur la charité. Pour deux raisons principalement, parce que d'une part, dans mon travail ici à la bibliothèque, dans les documents que j'ai pu trouver, une grande partie de ce qu'on peut trouver sur les pauvres se trouve dans l'histoire des institutions charitables fribourgeoises, que j'ai beaucoup utilisé pour le livre, sans en partager les conclusions dans la plupart des cas. Parce qu'il y a une espèce d'idéalisation sur laquelle je reviendrai de la charité dans le domaine fribourgeois qui est assez étonnante. Il y a une deuxième raison, évidemment, alors qui est née de la commande du livre. La tuile m'a demandé l'année dernière d'écrire une histoire de l'accueil des vagabonds ou des gens précarisés dans le canton de Fribourg. Donc je m'y suis attelé au début, en espérant bien trouver justement dans ces institutions charitables la preuve d'un accueil des vagabonds. Alors j'ai cherché longtemps, avant de retourner voir mon patron, la tuile, pour lui dire que j'allais devoir malheureusement modifier un tout petit peu le concept général du livre, en parlant surtout de répression et en parlant assez peu d'accueil. Toujours est-il qu'en faisant cet exercice, je me suis longuement plongé dans les textes sur la charité et j'ai pu longtemps, il y a un chapitre complet qui essaye simplement de montrer au fond pourquoi fait-on la charité au Moyen-Âge et pourquoi on continue à la faire à Fribourg très longtemps. Et j'ai dû, donc, au lieu de me demander à partir d'un certain moment quelles étaient les institutions charitables qui accueillaient les pauvres, je me suis plutôt posé la question comment la charité s'en sortait avec les mauvais pauvres. Alors une partie de l'explication tient dans un fait aussi qui m'est apparu assez rapidement dans le livre, c'est que la plupart de ces institutions, si on prend au Moyen-Âge les deux principales, qui sont l'hôpital Notre-Dame et la confrérie du Saint-Esprit, ces deux institutions sont créées par des bourgeois de Fribourg, donc on peut parler d'une création privée des institutions. Par contre, très rapidement, et ça c'est tout à fait bien documenté, très rapidement les autorités se rendent compte de l'intérêt de ces deux institutions, qui sont extrêmement riches aussi très rapidement. Et à partir de là, les autorités mettent vraiment leurs mains sur ces institutions, et donc elles vont pouvoir contrôler la manière dont on va donner la charité. Et dans ce contrôle, justement, les mauvais pauvres ne toucheront pas d'aide et seront souvent projetés sur les routes. Un deuxième aspect tout à fait clair, pour revenir au chasse-gueux de mon titre, c'est que ces derniers sont payés effectivement, alternativement, par la confrérie du Saint-Esprit, par la confrérie des âmes du purgatoire et par l'hôpital Notre-Dame. Donc, on peut difficilement s'attendre à ce qu'une charité idéale s'exerce. Elle est vraiment pilotée, au fond, par les autorités. Et pour reprendre le titre de Guéremec, qui m'a beaucoup inspiré, je dois le dire, pour tout ce travail, « La potence et la pitié font bon ménage », lui explique assez clairement qu'il n'y a pas vraiment une période de charité, une période de répression, mais les deux vont ensemble et évoluent souvent sur la pression d'événements extérieurs. Après les guerres, on devient tout à coup beaucoup plus répressif parce qu'il y a de nouveaux vagabonds qui passent par là, donc on met un peu la pression. Une très bonne illustration, je crois, que j'ai beaucoup commenté dans ce livre, est le tableau de Hans Fries, enfin le retable du Bunion de Hans Fries. Et là, on voit... Donc ce tableau, je pense, est clairement peint pour illustrer la grande charité des fribourgeois. L'image, quand on la regarde comme ça, paraît tout à fait d'ailleurs positive. On voit des hommes fribourgeois distribuant du pain, des vêtements, des souliers, à des pauvres qui sont là. Si on regarde par contre un peu en détail qui sont ces pauvres, On ne voit pas ces mendiants haillons qui sont décrits par la littérature médiévale. Ce sont des familles pauvres, des pèlerins de Saint-Jacques et des gens qui semblent pauvres, méritants justement déjà. Et un petit personnage dans ce tableau joue un rôle qui me paraît tout à fait important, c'est un homme avec un bâton qui semble manifestement, donc là, les interprétations. Donc dans le dernier catalogue de l'Expoint Frise, assez clairement, on pense que cet homme trie justement entre les bons et les mauvais pauvres. Mais ce qui me paraît amusant, entre guillemets, dans ce tableau, c'est que cette représentation parfaite de la charité fribourgeoise contient déjà en elle-même, à l'intérieur, les mesures de répression qui vont, à partir de ce moment-là, puisque le tableau date de 1515 approximativement, à partir de ce moment-là, on va clairement séparer les bons des mauvais pauvres. Je vais faire un grand saut maintenant pour montrer un autre exemple de la manière dont fonctionne cette charité fribourgeoise. En 1747, et ça c'est un des documents que j'ai trouvé dans cette bibliothèque, qui est un document absolument remarquable, en 1747, une ordonnance fribourgeoise va confier cette fois à la confrérie de la Saint-Martin l'aide aux pauvres. C'est-à-dire qu'à partir de 1747 jusqu'en 1798, les autorités vont se laver les mains de l'aide aux pauvres pour laisser cette confrérie de la Saint-Martin s'occuper de l'aide à ses pauvres. Le texte d'introduction, et je vais le citer assez longuement parce qu'il est assez significatif, laisse douter, de manière assez claire, de la véritable intention d'aider tous les pauvres. Je cite donc cette introduction de l'ordonnance de 1747. Nous, la voyez, petit et grand conseil de la République de Fribourg, savoir faisons à tous et chacun, comme quoi la loi confrérie de Saint-Martin nous aurait respectueusement fait présenter, par manière de projet, divers moyens de bannir de notre capitale l'oisiveté, laquelle, comme mère de tous les vices, ne peut être que très désagréable à Dieu, pernicieuse à notre État et nuisible au bien de la société. La suite de l'ordonnance, sur quoi, ayant pris en examination lesdits projets et ayant suffisamment reconnu que les louables intentions et les vues toutes chrétiennes de cette nouvelle confrérie ne tendaient qu'à l'accroissement de la plus grande gloire de Dieu, à l'entière destruction et anéantissement de la fainéantise, à faire naître parmi la jeunesse de cette ville de l'un et de l'autre sexe l'amour du travail, en lui mettant en main divers métiers utiles, et à délivrer le public d'une foule d'importuns qui, préférant la plupart une honteuse et oisive mendicité à un travail honnête, passent leur vie à mendier journalièrement de porte en porte, nous avons bien voulu contribuer à un si pieux et si avantageux dessein, en y donnant, comme donnons par la présente, notre souverain consentement. Donc, clairement, l'État va laisser à cette confrérie le soin des pauvres. Ce document pouvait paraître anecdotique s'il était isolé, mais à travers le XVIIIe siècle, et cela a très bien été répertorié par un des collègues Alain Bosson dans un catalogue d'ordonnances, à travers le XVIIIe siècle, on trouve de nombreux textes de cette teneur-là. Soit des ordonnances, soit un document tout à fait intéressant qui s'appelle « Règlement pour les pauvres du pays », qui date de 1749, je l'ai reproduit en partie, qui donne toute une série, justement, de classes de pauvres qui ne méritent vraiment pas qu'on les aide et qui méritent au contraire, alors ça peut être les galères, toutes sortes de peines et de châtiments qui sont pas très charitables, au fond. Si j'insiste aussi sur les textes de ces ordonnances, c'est qu'il y a, je pense, un enjeu très important de la charité fribourgeoise qui s'exprime peut-être pas tellement au XVIIIe siècle, mais plus tard. Je parlais donc de cette source d'inspiration qui a été la littérature charitable fribourgeoise, et je disais aussi que je ne partageais pas tellement ses conclusions. Je pense qu'effectivement, toute une série d'auteurs fribourgeois, à la fin du 19e et au début du 20e, ont présenté une image tout à fait idéale de la charité fribourgeoise. Et j'ai beaucoup lu Jeanne Micky, qui est une source d'information absolument remarquable, mais dont les conclusions, parfois, à la lecture des textes, m'ont parfaitement étonné. Commentant le texte que je viens de citer, elle affirme que cette ordonnance permettait d'aider tous les pauvres. Je vois le contraire. D'ailleurs, dans le détail de l'ordonnance, sur 8 articles, 7 sont répressifs et 1 se charge effectivement de l'aide. Ensuite, il y a un règlement d'application qui parle un peu plus effectivement d'aide. Mais Janicki est tout à fait, je pense, est tout à fait dans l'esprit de cette vision de la charité, qui va revenir plus tard dans un débat qui est très important, je pense, justement pour les pauvres, autant que pour les sans-abri, les vagabonds. C'est que lorsqu'il faudra déterminer la manière dont on va s'occuper d'eux, Fribourg sera le champion de la contestation d'un impôt sur les pauvres. On ne veut pas entendre parler de ça à Fribourg, je dirais, jusqu'en 1930 en tout cas. Donc Janicki, pour revenir à elle, affirme, en lisant cette ordonnance, que toutes les misères à Fribourg étaient soulagées si elles paraissaient réelles aux membres de la Chambre des aumônes. Alors, le réalisme de ces membres est tout à fait douteux, comme d'ailleurs le réalisme des élites de l'époque. Si on compare ces textes avec un livre comme le pauvre paysan du Toggenbourg, on voit vraiment une différence extrême entre la perception de la richesse des Suisses qui découle de ces ordonnances et la réalité qu'on peut attendre de cette œuvre du riche précaire. Donc le réalisme, je pense, n'est vraiment pas établi, d'autant plus que une historienne, cette fois contemporaine, commente cette situation de la charité, hein, puisqu'on dit « la charité aide tous les pauvres ». Elle écrit toujours à Annelise Edkönig, « Quant à la proportion totale des indigents secourus sous une forme ou une autre, à domicile, de passage et dans les institutions, qui répondent aux critères fixés par la société dans laquelle ils vivent pour être secourus, la plupart des historiens s'accordent sur un taux voisin de 10% de la population totale. En réalité, le nombre de paupérisables vivant une vie précaire est bien supérieur, et leurs effectifs gonflent rapidement dans les périodes de difficultés conjoncturelles. Témoins en sont les grandes crises, celles de la fin du XVIIe, où ceux qui ont besoin d'une aide temporaire peuvent représenter près de la moitié, voire les deux tiers d'une population. » Donc entre ce 10% et les deux tiers, il y a une marge énorme qui permet de penser que la charité fribourgeoise ou ailleurs ne permettait pas justement d'aider tous les pauvres. Et pour revenir à cet enjeu de la charité, je vais sauter un petit peu plus loin pour en finir avec la charité, une fois pour toutes, je ne sais pas, mais en tout cas, dans cette conférence. En 1868, il y a un document absolument intéressant aussi, qui est un rapport d'Henri Chalère, qui est rapporteur de la commission chargée d'étudier la question du paupérisme. Et cette mentalité, justement stigmatisante vis-à-vis des pauvres, apparaît tout aussi clairement. Il écrit « La charité légale, c'est-à-dire celle qui serait basée sur un impôt, engendre dans la classe indigente des habitudes de paresse, de fainéantise et d'imprévoyance. » Ce texte, encore une fois, n'est pas sans conséquence, puisqu'en 1869, la nouvelle loi sur l'assistance prendra en compte les réflexions de cette commission pour, et pour longtemps, refuser qu'on prélève un impôt pour les pauvres. Donc, on continue à s'appuyer sur cette charité, qui, justement, n'est pas présentée pour rien comme une charité qui peut s'occuper de tous les pauvres, parce qu'on veut la conserver, on ne veut pas passer à un impôt qui permettrait une redistribution vers les pauvres. Et ça va beaucoup plus loin, parce que la loi de 1869 tient jusqu'en 1928, la loi sur l'assistance. En 1928, justement, entre 1869 et 1928, il y a une floraison d'œuvres sur la charité, de réflexions très intelligentes, souvent, mais qui sont toujours très, très idéologiques. Donc, Émile Savoie, dans un livre qui concerne aussi la charité en 1928, réaffirme plusieurs de ses pages, essayent de restaurer la bienfaisance comme elle était pratiquée par ceux qui, dans les temps anciens déjà, étaient animés des idées de la pure et noble charité, si souvent discréditée par les politiciens. Et je crois que la conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle, la charité se retourne contre les pauvres à Fribourg. Elle ne les aide plus du tout, mais au contraire, elle prolonge cette situation difficile qui est la leur. Je vais revenir maintenant à mes chasse-gueux, après en avoir fini, j'espère, avec cette charité. Au début du XVIIe siècle, les chasse-gueux ne sont pas les seuls à lutter contre les vagabonds. Il y a un phénomène. Malheureusement, on trouve des informations éparses. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de choses à Fribourg sur la question, mais c'est très bien documenté dans les autres régions suisses. Ce sont les chasses générales aux vagabonds. Et elles sont, on peut, Hubert Förster l'a bien fait, on peut en compter des dizaines au XVIIe siècle et des dizaines au XVIIIe siècle. Donc le principe, c'est que les chasse-gueux et d'autres personnages fribourgeois se mettaient à la chasse aux vagabonds qui traînaient dans les campagnes Donc, je dis vagabonds, ils avaient d'autres appellations. Ça pouvait être les rôdeurs, c'était évidemment les Sarrasins. Hein, Sarrasins qui sont ensuite devenus les Tziganes, enfin, les appellations varient. Les gens qui n'avaient pas travaillé, ben, toutes sortes de gens étaient chassés. Donc, les conséquences, quand ils se faisaient prendre, là, il faudrait aller, je pense, dans le détail des peines, etc. Mais les peines prévues étaient très lourdes. On pouvait leur couper le lobe de l'oreille, on pouvait les envoyer aux galères. Mais il semble aussi qu'une distinction assez claire se faisait entre le vagabond fribourgeois, qui était mieux traité que le vagabond confédéré, qui lui-même était mieux traité que le vagabond étranger. Donc le Sarrasin était toujours dans une situation extrêmement difficile lorsqu'il tombait dans les mains des chasseurs. Trois causes principales de ces chasses se laissent voir dans les documents aussi du XVIIIe siècle. Je parlais tout à l'heure justement de la pression des ressources qui fait que tout à coup la répression devient plus forte. Alors les disettes. Donc chaque fois qu'il y a disette, évidemment, la pression sur les ressources économiques est plus grande, on commence à chasser. Les guerres, qui amènent des vagabonds étrangers sur les routes, et l'apparition de bandes dans les campagnes. J'aimerais m'arrêter sur cet exemple pour signaler un autre aspect que j'ai trouvé assez étonnant dans tout ce travail. Un historien s'est intéressé à la situation au XVIIIe siècle dans l'évêché de Bâle. C'est-à-dire que son thème est vraiment les vagabonds dans l'évêché de Bâle au XVIIIe siècle. Et il montre que justement, quand une bande apparaît dans les campagnes, on lance une chasse. Il écrit: se réunir avec d'autres rôdeurs, c'est, pour un vagabond, déjà commettre un crime, ou tout du moins provoquer les autorités. Mais il met aussi dans son travail en lumière une contradiction que je n'ai pas pu vraiment analyser par manque de temps et de sources, mais que lui a bien pu analyser dans cette région qui n'était pas si éloignée de la nôtre. Il écrit: sur la période couverte, soit 46 années, 98 personnes ont été condamnées pour vagabondage et au moins un autre crime plus important, c'est-à-dire une moyenne de 2,13 par an. Ce chiffre ne représente bien évidemment pas l'invasion de voleurs et bandits étrangers que les autorités annoncent régulièrement. Il semble que leurs craintes soient plus fortes que les dangers réels représentés par les vagabonds et les rôdeurs. Alors ça, c'est une constance, encore une fois. Moi, je n'ai pas trouvé, peut-être que d'autres l'ont trouvé, je me réjouirais de voir ça, je n'ai trouvé à aucun moment de documents qui montrent que la société fribourgeoise était en danger à cause de vagabonds. Mais vraiment, je regarderai volontiers ces documents s'ils existent, mais je n'ai rien trouvé. Et je crois que cette analyse sur l'évêché de Bâle confirme un peu ça. Il y avait en fait une assez grande paranoïa vis-à-vis des gens qui ne vivaient pas cette vie stable et établie. Mes chasse-gueux maintenant vont disparaître à la fin du 19e, mais non, à la fin du 18e, du 19, 18e, pardon. Mais ils vont être remplacés, donc les chasse-gueux disparaissent, mais la maréchaussée arrive. Ensuite, elle sera relayée par les corps de chasseurs à pied et enfin par la gendarmerie en 1804. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque fois qu'on crée ces nouveaux corps, on pense très clairement à la situation des vagabonds. C'est-à-dire qu'il faut, essentiellement, ces gens doivent s'occuper des vagabonds, donc ils prennent vraiment le relais des chasse-gueux. Ce début du 19e siècle, la mentalité portée par les ordonnances que j'ai citées, et une nouvelle loi aussi qui date de 1811, hein, qui est une loi vraiment de la répression de la mendicité, on commence avec tous ces éléments qu'on a mis en place au XVIIe et XVIIIe à se rendre compte qu'on a créé une catégorie de vagabonds parmi les mieux documentés, ce sont les Heimatlos. Et là, alors, on peut vraiment. De nombreux documents existent qui nous permettent de suivre leur parcours, de voir comment ils ont été réduits au vagabondage, etc. Leurs caractéristiques, donc les Heimatlos, c'est qu'ils n'ont plus de patrie, c'est-à-dire aucune bourgeoisie dans aucune commune. Ils sont vraiment condamnés à errer sur les routes. On peut, donc, ça c'est très bien documenté à Fribourg, à travers entre autres les textes de Léon Genoux et de Schneuvly, dont j'oublie le prénom. Ces Heimatlos sont la conséquence d'une évolution du droit de bourgeoisie. Donc, je parlais là d'une forme d'exclusion administrative, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, qui n'a pas assez de moyens ne peut plus être bourgeois d'une commune, ni être toléré, hein, qui était l'autre statut qui permettait quand même de vivre quelque part. Donc, Léon Genoux analyse cette évolution de manière assez crue, et on ne peut pas tout à fait le soupçonner. C'est dans le manuel des œuvres charitables du canton de Fribourg, donc ne peut pas soupçonner Durand-Genoux d'être révolutionnaire, mais il écrit de manière assez radicale « L'étranger à la commune, au moment où il allait tomber dans l'indigence, était tout simplement chassé. Qu'il parvint à joindre sa commune d'origine, s'il en avait une, ou qu'il succomba sur la route, ou qu'il s'adonna au vol, la commune qu'il avait expulsée n'en prenait plus aucun souci. Être débarrassé de lui, voilà tout ce qui importait. Comme le Heimatlos ne pouvait pas demeurer suspendu dans les airs, il se fixait dans une autre commune, où il lui arrivait la même chose. La chasse continuait jusqu'à ce que l'individu, traqué comme un gibier, succomba. » Donc, traqué comme un gibier, on est dans la notion de la chasse. Donc, au XIXe siècle, justement, on se rend compte de l'existence de ces Heimatlos et on va tenter de régulariser de manière légale leur situation, c'est-à-dire en essayant de retrouver justement leur commune, s'ils en ont une, ou de leur en donner une. Mais il y a un petit épisode fribourgeois, typiquement fribourgeois, un des magnifiques de cette histoire fribourgeoise dont on parle sans cesse, c'est Nova Friburgo. Et Martin Nicolin, dans son livre, alors, a écrit quelques passages tout à fait exceptionnels sur le rôle des Heimatlos dans Nova Friburgo. Donc Nova Friburgo, au départ, pour le recrutement des gens qui vont partir vers Nova Friburgo, dès la première discussion, on se dit qu'il faudrait quand même réussir à laisser des gens partir librement et à mettre avec eux dans le wagon quelques Heimatlos. Donc, à ce moment-là, on lance au fond les procédures candidature et aucun Heimatlos ne semble vraiment désireux d'aller au Brésil. Donc, il y en a un ou deux peut-être comme ça. Alors là commence vraiment une opération tout à fait dirigée, c'est qu'on va aller les voir personnellement. Alors un exemple est assez intéressant dans le livre de Martin Nicolin. Un homme se voit proposer de partir à Nova Friburgo. Il refuse. Le chef de la police en conclut et transmet une note au service compétent. On conclut que cet homme n'a plus besoin d'assistance puisqu'il refuse les terres qu'on lui offre. Et de cette stratégie-là, finalement, on arrivera à chasser quelques Heimatlos vers le Brésil. On arrivera d'ailleurs à faire encore mieux ou pire certainement, c'est qu'on va réussir à envoyer des enfants qui pourraient devenir pauvres. Donc, plutôt qu'ils deviennent pauvres à Fribourg, ils sont devenus pauvres à Nova Friburgo. Et vous connaissez certainement les aventures de ces gens qui sont partis vers Nova Friburgo. Ce n'est pas vraiment le bonheur parfait. Je vais venir maintenant à... Donc, les Heimatlos, ensuite, la situation va se régulariser. Mais il y a... j'avais trois termes dans mon titre, au fond. C'était les chasse-gueux, les mauvais pauvres. Et j'aimerais démontrer par un extrait de mon livre assez long, je m'en excuse, mais je n'ai pas eu le temps de le résumer, comment pouvaient se passer les choses et comment on pouvait effectivement, parce que quelqu'un était à nos trousses, ne plus jamais pouvoir s'installer quelque part dans ce pays. Et tout cela, enfin, ce petit passage, ce grand passage, vient en fait de plusieurs de ces documents qui concernent les Heimatlos. Donc il y avait, d'ailleurs c'est un document exceptionnel, c'est une espèce de casier judiciaire au fond, de tous ces Heimatlos. On a enquêté en fait pour savoir s'ils étaient vraiment sans patrie ou bien s'ils avaient une commune d'origine et ne s'en souvenaient plus ou ne voulaient plus s'en souvenir. Et alors il y a leur portrait avec des descriptifs assez intéressants de la manière dont ils ont vécu. Et parmi ces gens, j'avais repéré les enfants Mechli. Et je vais, en vous lisant ce passage, vous raconter un peu l'histoire de ces enfants. Donc on apprend dans les archives de la direction de police, de la police centrale fribourgeoise en 1837, qu'un nommé Ulrich, originaire du canton de Berne, s'établit à Tavel vers le milieu du XVIIIe siècle. Il y laisse une partie de ses descendants. D'autres s'établissent dans le canton de Soleur, d'autres se livrent au vagabondage. Parmi ces derniers, François-Jacques Ulrich, qui laisse à sa mort de nombreux enfants, dont Anna-Maria Ulrich, qu'il a eue avec Clara Wendel. Clara Wendel était une célèbre vagabonde, au fond, condamnée dans le procès, le Gauner Process de Lucerne. Et là, on peut voir aussi un peu comment fonctionnent les choses, parce que lorsqu'elle est accusée, on en arrive finalement à lui attribuer 20 assassinats, 14 incendies et 1588 vols. Donc, à peu près, je pense, tout ce qu'il y a dans la région. Plus le procès avance, plus les vols s'accumulent. Comme ça, on règle une fois pour toutes une série d'affaires criminelles en les donnant à Clara Wendel. Donc la fille de Clara Wendel et de François-Jacques Ulrich apparaît dans les archives de la direction de la police fribourgeoise en 1837. Cette famille, donc celle de François-Jacques Ulrich, qui a maintenant à sa suite plusieurs illégitimes, encore un phénomène récurrent chez les vagabonds, a été depuis 1816 transportée chaque année dans ce canton, mais sur le refus de la commune de Tavel de la reconnaître, elle a toujours été renvoyée à l'endroit d'où elle nous arrivait. L'année dernière, on découvrit dans ce canton un couple de vagabonds avec deux enfants, on peut penser justement que ces enfants sont des Mechelis. Amené à la police centrale, il se vérifia que c'était une fille de France, Franz Jacob Ulrich, qui s'était mariée à Novare, et cela à l'insu de son gouvernement et de sa commune. Donc, pourquoi se mariait-elle à Novare? Parce qu'on leur interdisait le mariage, hein, pour manque de moyens. La police centrale dirigea de suite cette famille vers les États sardes, où ces gens avaient été mariés. Ces derniers jours de janvier, Anne-Marie Ulrich et ses deux enfants nous arrivèrent par transport d'Arreau. La police centrale les renvoya de suite au département de la police d'Argovie en lui faisant connaître que ces gens ne pouvaient être reçus dans ce canton. Peu de temps après, ces personnes furent reconduites ici par ordre de la police d'Argovie. Je crois que le mécanisme est assez clair, donc hein, Argovie-Fribourg. Et ensuite, on va les renvoyer quand même dans le royaume de Sardaigne. En 1854, on retrouve Anne-Marie Ulrich sur justement cette liste des vagabonds suisses et étrangers, soi-disant Heimatlos. Elle est considérée comme une fausse Heimatlos et doit être envoyée dans sa patrie avec son mari Aloïs. Et là, je cite le document. Mechli était bourgeois de Murivet, canton d'Argovie. Anna-Maria Ulrich était fille du Heimatlos François-Jacques Ulrich, dit Uninger Franz, et de Clara Wendel, dit Zaiden et Clara. Le mariage a eu lieu illégalement à Novare, et toute la famille a reçu des passeports sardes avec lesquels elle séjourna plusieurs années en partie en Sardaigne, en partie en Suisse. À la fin de 1853, elle réclama toutefois un droit de patrie suisse, la Sardaigne ne voulant pas la tolérer plus longtemps. Ensuite, de démarches diplomatiques du Conseil fédéral, vu le mariage illégal à Novare, et en application de l'acte 7 du traité avec la Sardaigne du 1er juillet 1827, la légation sarde a cependant reconnu par note du 5 janvier 1854 la naturalité sarde de toute la famille Mechli, laquelle a été renvoyée. Donc, le résumé de tout ça, c'est qu'à peu près sur 20 à 30 ans, ces gens sont renvoyés d'un endroit à l'autre parce qu'ils n'ont pas de patrie. Voilà pour la partie historique. J'aimerais maintenant m'intéresser un tout petit peu aux mauvais pauvres aujourd'hui, au fond. Donc, quand la tuile m'a commandé ce livre, j'y suis allé un petit peu à la tuile pour voir un peu ce qui s'y passait. Et comme je visitais la tuile parallèlement aux lectures que je faisais, ce qui est tout à fait frappant à la tuile, c'est que la tuile ne pose pas de jugement moral. C'est-à-dire que chacun peut y venir. Les règles sont très simples. Chacun peut y venir et doit respecter ensuite quelques principes de non-violence, de non-deal, de drogue, donc pour que la tuile ne tienne pas un lieu de deal. Non-violence, non-deal. Et non-alcool, oui, et pas d'alcool, pour que simplement les gens... Donc ils peuvent boire dehors, hein, devant la tuile, on ne leur interdit même pas ça, mais à l'intérieur, non, pour que on puisse un petit peu, pour que l'équipe de la tuile puisse gérer. Donc cet aspect-là de non-stigmatisation est tout à fait étonnant dans le contexte de cette histoire. On peut quand même donner un aspect dont je n'ai pas parlé dans la conférence, c'est que l'asile de nuit, foyer Bon Accueil, hein, qui a occupé le bâtiment de l'actuel Friard, dès 1934-35, a aussi accueilli des gens, je pense, avec une attitude non jugeante. Donc il faudra aller voir un peu dans le détail. En tout cas, dans les faits, les gens pouvaient y aller. Dans les propos qu'on peut voir dans leurs rapports, c'est moins clair. Mais toujours est-il que la tuile aujourd'hui ne juge pas et accueille ces gens. Donc après ces 10 ans d'expérience de la tuile, on peut aussi constater qu'aujourd'hui les chasse-gueux ne courent plus aux trousses des mauvais pauvres ou des sans-abri. Par contre, d'abord, avant le par contre, il y a une expérience de la police. Le rôle de la police est tout à fait intéressant. J'en ai beaucoup parlé avec les gens de la tuile. C'est qu'aujourd'hui, la police parfois s'inquiète aussi de gens qui vivent dans la rue. Mais ce n'est pas pour leur rendre la vie plus compliquée, mais au contraire, pour les amener à la tuile où ils peuvent passer le temps qu'il leur faut pour essayer de s'en sortir. Parce que le rôle de la tuile, donc, la tuile n'impose rien aux gens qui vont chez elle, mais permet parfois de rebondir dans une autre forme d'aide sociale qui existe, hein, dans le réseau fribourgeois. Donc je vais revenir en revanche. Oui, en revanche, je suis persuadé qu'on continue à stigmatiser les mauvais pauvres, et sous des formes particulièrement vicieuses qui ressemblent un peu à cette exclusion administrative dont je parlais à propos de l'interdiction de la bourgeoisie. Plusieurs études, alors tout à fait contemporaines, celle-là d'un certain Dubanel pour l'une, et j'ai eu une conversation récemment avec une spécialiste des assurances sociales qui en a fait une autre, montrent que, par exemple, au chômage, cette personne qui a fait cette étude a fait l'étude de 600 procédures de suspension de rente chômage. Et ce qu'elle constate, c'est que souvent, les gens ne touchent plus le chômage pendant un certain moment, tout simplement parce que le fonctionnaire chargé d'appliquer la loi se contente de porter un jugement moral sur cette personne qui, tout à coup, au nom d'erreurs administratives, souvent, se retrouve privée d'une semaine ou de deux semaines de location. Ce qui est évidemment une situation terrible quand on vit déjà avec un revenu très bas. Alors ça, ce n'est qu'un exemple, mais je crois que dans beaucoup de domaines, et malgré les lois, donc j'oserais affirmer que ces fonctionnaires qui pratiquent ce jugement moral sont des hors-la-loi aujourd'hui, puisque les lois disent le contraire. Par exemple, la loi sur l'aide sociale fribourgeoise est une clarté parfaite avec ça. Elle dit, celle de 91, donc, que le pauvre peut être absolument responsable de sa pauvreté, mais doit toucher cette aide sociale, quoi qu'il en soit. Donc la loi a bien évolué, mais on continue à avoir des gens, donc, alors pour ne pas critiquer que les fonctionnaires qui appliquent ces lois, on peut parler aussi simplement du tissu économique d'aujourd'hui. Eric Müller constate dans le rapport 2002 de la tuile apparaître que un autre phénomène ennuie beaucoup les gens qui fréquentent l'institution. C'est que aujourd'hui à Fribourg, il y a une possibilité pour des gens dans le besoin, l'aide sociale veut bien garantir leur loyer. Donc c'est une étape assez intéressante. Seulement, il faut encore que d'autre côté, dans le tissu économique, des régies acceptent ces potentiels locataires qui ont une garantie de loyer. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Pour citer Eric Müller, c'est un hermétisme du marché immobilier complet. Je ne veux pas multiplier les exemples, mais je crois, alors une autre étude que je vous conseille, vraiment c'est une étude de Stéphane Rossini sur les pauvretés cachées en Suisse qui est sortie il y a quelques mois et qui démontre la complexité de ces parcours de précarité, etc. Et qui démontre à quel point il n'y a pas que des causes personnelles, de loin pas, mais il y a vraiment des constructions sociales encore du mauvais pauvre qui rend leur vie bien plus désagréable qu'elle ne l'est déjà, et qui pourrait, je pense, si on voulait arrêter d'être hors la loi, changer un petit peu aujourd'hui. Et pour conclure, je n'ai pas beaucoup parlé de ça dans le livre, mais on pourrait faire un livre là-dessus. Il y a des arguments comme ça qui reviennent aussi périodiquement dans l'histoire, qui, à mon avis, justifient, entre autres, ces mesures répressives, justifient donc dans les yeux des gens qui les produisent, ces mesures répressives. C'est qu'on est souvent gêné dans les sociétés de voir nos pauvres. Et la preuve m'en a été donnée par un article de La Liberté, qui n'engage pas l'auteur de l'article, mais un conseiller général qui constatait l'année dernière il y avait beaucoup de mendiants slovaques dans les rues. Je pense que vous les avez vus. Ils paraissaient, à mon avis, assez peu dangereux. Je veux bien concevoir que c'est un sentiment à la dangerosité, donc c'était peut-être qu'à mon avis. Mais Ce personnage disait justement qu'il faisait un peu peur à la population, ces Slovaques. Une dernière phrase, rapportée encore par La Liberté, mettait à mon avis le doigt sur une réalité qui était beaucoup plus grande et plus juste. C'est qu'ils étaient un peu gênants pour l'attractivité commerciale de la rue de Romont. Et on retrouve ça très très souvent. À un moment, au 19e siècle, quelqu'un se plaint des vagabonds en disant ils donnent une mauvaise image de notre civilisation. Et je crois que ce genre d'attitude, en tout cas, sont tout à fait dommageables pour les sans-abri, et nous ne sommes certainement pas à la hauteur de notre société si civilisée. Merci.
Une heure riche d'informations, de partage, donc c'est le moment du partage. vous avez des questions,
à votre disposition. Non, alors ça, je n'ai pas trouvé, en tout cas, dans le domaine fribourgeois, non. Je pense qu'il y a un manque de documents aussi, simplement. Je crois qu'il y a un grand doctorat sur les vagabonds, qui est un doctorat en allemand, qui a été lu par une de mes collègues de travail. Mais je crois que là, on a quelques informations sur ces chasses, comment elles étaient organisées, etc. Mais pour Fribourg, je n'ai vraiment pas trouvé de description. Mais je crois qu'assez simplement, donc, on se réunissait, souvent d'ailleurs au milieu de l'hiver. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que ces textes sont souvent, les décisions les plus répressives sont souvent prises en décembre, en janvier, enfin, au moment où il fait bon vivre sous le ciel.